franceinter.fr.
Il est 19h. Sébastien Paour pour le journal. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Mon silence et ma défense. Quelques mots de Salah Abdeslam, le dernier survivant des commandos du 13 novembre, jugé à Bruxelles pour une fusillade pendant sa cavale en Belgique. La procureure demande 20 ans de prison. Amazon, 200 millions d'arriérés d'impôts en France, un accord discret avec le fisc français. On ne connaît pas le montant du chèque. Au sommaire également ce soir, les zones humides en rempart, au cru. Vigilance orange, neige, verglas sur 40 départements. Marc et Christophe Bacquier, nouveau 3 étoiles au guide Michelin. Les stagiaires de 3e, eux aussi discriminés. La visite du président turc à Rome, qui frappe de nouveau à la porte de l'Europe. Le premier album des Californiens de Starcrawler. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, au téléphone sonne, le gouvernement ne parle que de grandes lignes, mais vous êtes déjà nombreux à avoir mis du stabilo là où ça coince. Rémunération au mérite, recours plus fréquent aux contractuels, rénovation des statuts, départ volontaire. La fonction publique est le gros chantier qui fait parler de lui en ce moment. Faut-il en effet l'attaquer par la face nord? Peut-on toucher à la fonction publique sans se brûler les doigts? 01 45 24 7000.
France Inter. Il ne veut pas parler, mais ça ne l'empêche pas d'être jugé. Salah Abdeslam, le seul des terroristes du 13 novembre, sorti vivant des attaques, est jugé donc depuis ce matin à Bruxelles pour une fusillade pendant sa cavale. C'était en mars 2016. Il n'a rien dit pendant l'enquête. La mention mutisme se trouve sous toutes les questions du juge. Même stratégie devant le tribunal belge. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Un silence en guise de défense donc, qui n'empêche pas la procureure de réclamer la peine maximale.
Oui, Salah Abdeslam ne se lève même pas de sa place au premier rang quand la présidente l'interroge. Il est entre deux policiers cagoulés. Lui qui avait demandé à être jugé en Belgique refuse de répondre aux questions. Il l'annonce d'emblée d'une voix nette et comme sur un ton de défi. Il prétend d'abord qu'il est fatigué d'avoir fait la route au milieu de la nuit, puis invoque son droit au silence. Enfin, Salah Abdeslam revendique son mépris du tribunal. Je n'ai confiance qu'en Allah, je n'ai pas peur de vous et de vos alliés. Les quelques représentants d'associations de victimes françaises du 13 novembre présents n'avait pas beaucoup d'espoir de le voir changer d'attitude. Pour Olivier Laplot, le vice-président de Life for Paris, ce comportement est déjà une réponse.
Encore une fois, j'étais là comme témoin dans une affaire qui n'est pas la nôtre. Et se retrouver dans cette pièce, c'est forcément impressionnant, c'est forcément troublant. Je pense que c'est quelqu'un de très lucide et c'est ce qu'il fait. Les phrases de provocation qu'il a pu utiliser ce matin le montrent tout à fait. Moi, j'ai observé quelqu'un d'assez déterminé encore aujourd'hui.
Déterminé, Salah Abdeslam l'était aussi ce 15 mars 2016, estime la procureure de Bruxelles, qui a requis 20 ans d'emprisonnement pour tentative d'assassinat, même s'il n'y a pas de preuve qu'Abdeslam ait lui-même tiré sur les policiers. Des policiers français et belges venus pour une perquisition de routine, selon leur avocate, et qui se sont retrouvés confrontés à une scène de guerre. 3 ont été blessés. L'interrogatoire du principal prévenu ayant tourné court, le procès devrait se terminer jeudi. Pas d'audience ni demain ni mercredi. Mais Sven Marie, l'avocat de Salah Abdeslam, a demandé du temps pour préparer sa plaidoirie.
Sarah Guibaudot en direct de Bruxelles avec Jean-André et Giannichini. On ne sait pas non plus si Salah Abdeslam rentre à Fleury-Mérogis ce soir ou s'il passe la nuit à la prison de Vendin-le-Vieil près de la frontière belge. Le jugement en tout cas est attendu en avril. Lui est entendu par le juge sur la disparition du caporal noyé, Nordal Lelandais. Première audition dans ce dossier. Il est aussi mis en examen pour la disparition de Maëlys en août dernier en Isère.
On ne connaît pas le montant du chèque, mais Amazon a payé ses impôts.
Le fisc français et le géant du commerce en ligne signent un accord à l'amiable mais secret. La multinationale américaine était dans le viseur de Bercy pour un arriéré d'impôts et des pénalités sur les années 2006-2010. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Le fisc lui réclamait 202 millions d'euros.
Oui, Amazon vend beaucoup en France, mais le géant de la vente en ligne n'y paye pas beaucoup d'impôts comme les autres GAFA. La firme de Seattle ne déclare qu'une infime partie de ses profits réels. L'essentiel est déclaré au Luxembourg, où la fiscalité est nettement plus légère. En 2012, le fisc conteste le montage. Il engage un redressement et réclame près de 200 millions d'euros au géant américain. L'affaire aurait dû se régler en justice, mais en juillet dernier, la procédure contre Amazon est fragilisée, car la justice donne raison à Google dans une affaire du même ordre. Le gouvernement décide alors de transiger. Il ouvre la porte à un règlement à l'amiable, qui vient donc d'aboutir. Le montant, vous l'avez dit, du redressement n'est pas connu. Bercy se retranche derrière le secret fiscal. Quant à Amazon, il reste très discret. La firme s'engage à payer ses impôts en France. Elle y a même ouvert une succursale en 2015. Reste à savoir ce qu'elle déclare réellement. Éric Vernier, spécialiste de la fiscalité des GAFA à l'IRIS.
On voit quand même le poisson parce que On parle de tout ce qui est commerce de détail, mais il y a une grosse partie du chiffre d'affaires qui ne concerne pas le commerce lui-même, et notamment en termes de bénéfices. Les bénéfices se font quand même beaucoup sur notamment la publicité. Mieux vaut un bon accord qu'un mauvais procès. Malheureusement, ce type d'accord permet finalement aux entreprises de s'en sortir à bon compte.
Les démêlés d'Amazon avec les autorités fiscales ne sont cependant pas encore terminés. La Commission européenne lui demande de rembourser 250 millions d'euros d'avantages indus au Luxembourg. L'exécutif européen qui doit présenter en mars une vaste réforme de la taxation des GAFA.
Delphine Simon, elle était annoncée, la voici précisée, la hausse du paquet de cigarettes au 1er mars, plus 1 euro en moyenne. Deuxième des augmentations prévues par le gouvernement après novembre dernier et avant les 10 euros le paquet prévu en novembre 2020.
Ça m'est égal, je suis repenti. 19h06, cette fois l'hiver est là.
Il a fait doux pendant deux mois, voilà le froid avec la neige et le verglas. La moitié du pays est en vigilance orange, des Charentes à la Lorraine, en passant par les Pays de la Loire et l'Île-de-France. Il est tombé 5 cm à Saint-Etienne, 15 sur l'Aubrac. On en attend autant demain sur l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Vendée, peut-être 10 cm à Paris. Circuler pourrait être très compliqué. Le froid en plus de l'eau, situation plus difficile encore pour les victimes des crues des derniers jours. Des inondations qui ne touchent pas la vallée de la Bièvre au sud de Paris, l'affluent de la Seine n'a pas débordé grâce à un système de zones humides, mares, marais, prairies, qui absorbent ou retiennent les trop-pleins. Explication et illustration avec ce reportage dans l'Essonne de Rosalie Lafarge.
À quelques mètres de la baie vitrée du salon de Laurent, la Bièvre s'écoule ces derniers jours beaucoup plus vite que d'habitude.
C'est assez spectaculaire, quoi. Le débit, en fait, est important. Les jardins sont gorgés d'eau, c'est la gadoue. Pour autant, on n'a pas trop d'appréhension parce qu'il y a encore pas mal de marge de manœuvre.
Une marge de manœuvre réelle. Tout au long de la rivière, une dizaine de bassins et une quinzaine de zones humides permettent de retenir plus d'un million de mètres cubes d'eau. Un système de télégestion pilote automatiquement l'ouverture et la fermeture des vannes.
La vanne se ferme pour stocker l'eau et tout se répand sur le territoire de la zone humide.
Hervé Cardinal est le directeur technique du CIAVB, le syndicat pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre.
Quand on a une crue chez nous, on peut passer de 200 litres seconde à 20 mètres cubes seconde en moins de 20 minutes. Donc c'est très important de pouvoir tamponner et absorber les flux pour éviter les inondations.
Et depuis leur mise en place après la crue de 1982, les zones humides jouent parfaitement leur rôle d'éponge. Il n'y a plus eu de débordement majeur. Thomas Joly, le maire de Verrières-le-Buisson.
Derrière cela, ce sont d'énormes économies, puisque dans des vallées voisines, c'est jusqu'à 35 millions de dépenses qui ont été engendrées par les récentes crues de 2016, alors que sur la Bièvre, il n'y a pas eu de dépenses du tout.
Sans compter les gains en termes d'épuration des eaux usées, dont les zones humides piègent naturellement une partie des éléments polluants.
Et prévision météo à la fin du journal, évidemment. Le rendez-vous est confirmé par l'Élysée. Emmanuel Macron verra Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni demain soir à Ajaccio pour la première visite du chef de l'État en Corse. Les dirigeants nationalistes vainqueurs des élections territoriales de décembre se disent mandatés et ils appellent le président à saisir une chance historique de résoudre la question corse. On en reparlera évidemment demain soir.
Il est rouge et il distribue des étoiles.
Et ce n'est pas le moniteur de ski, c'est le guide Michelin qui livre son palmarès 2018 des meilleures tables de France. Et d'ailleurs, bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir Sébastien.
Commençons par les trois étoiles. Hein. Ils sont deux de plus cette année, dont le célèbre chef haut savoyard au chapeau Marc Vera.
Qui n'hésite pas à parler de résurrection. Lui qui avait rendu ses étoiles et sa plaque Michelin après l'incendie de son restaurant, c'était il y a 2 ans, il est ce soir étoilé.
C'est un genre de... c'est une résurrection hein, ce qui nous arrive. Là qu'on a eu 2 fois 3 étoiles très longtemps, j'ai eu un tas de problèmes, un tas de pépins. Et moi, je me suis senti orphelin d'avoir refusé les étoiles Michelin. Orphelin du Michelin, je n'ai pas peur de le dire. Quand vous n'êtes pas en Michelin et que vous êtes au bout du territoire français comme moi, sur une petite pointe là, à 1800 mètres d'altitude, eh bien, je peux vous dire que ça change tout.
Alors, le chef Christophe Baquier au Castellet décroche également sa 3e étoile. Ce soir, à Pully, il y a ceux qui font leur entrée. Ils sont 50 nouveaux étoilés s'étoiler. Et cette année, pour certains jeunes trentenaires, le guide Michelin dépoussière son palmarès et s'ouvre à des expériences les plus inattendues, parfois médiatiques, avec le restaurant de découvert du chef de la télé-réalité Philippe Etchebest, qui décroche une nouvelle étoile cette année.
Je suis impressionné par le guide Michelin, c'est quand même, ils ont osé. Je les avais un peu provoqués en leur disant ce que j'allais faire. C'est compliqué finalement d'avoir une table de 10 couverts dans une cuisine, dans les sous-sols d'une brasserie. Et franchement, c'est là où ils ont cassé les codes. Franchement, dans des conditions pareilles, c'était assez exceptionnel. C'est vraiment une première en France.
À retenir également l'entrée au Michelin cette année d'Iñaki Aizaparte, du Chateaubriand à Paris, de Christophe Hache, Jean Chauvel. Les amateurs savent de qui on parle.
Effectivement, Iñaki Aizaparte, très bon restaurant parisien. Merci Laurent. Parmi ceux qui perdent un macaron?
Alors, ils sont 45 à sortir du Michelin cette année. Certains ont raccroché d'eux-mêmes les gants. C'est le cas de Sébastien Bras à L'Aïeul dans l'Aveyron, qui a demandé, pour ne plus subir cette pression du Michelin, il a demandé au guide de sortir cette année.
Laurent Kramer, merci, en direct de la scène musicale à Boulogne-Billancourt avec Raymond Albouy. On mange un peu moins bien dans les casernes, à moins peut-être d'être officier. Les filles et les garçons s'en rendront compte par eux-mêmes, qui feront peut-être le SNU, le service national universel voulu par Emmanuel Macron. Les Échos dévoilent un premier rapport sur ce service obligatoire pour les 18-21 ans. Bonsoir Nathalie Hernandez.
Bonsoir.
Les auteurs redisent que le projet coûterait entre 2,4 et 3 milliards d'euros par an. Ils ont planché sur trois scénarios.
Alors vous avez le choix. Le premier reprend la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, soit un mois complet, pendant lequel serait dispensée une formation militaire élémentaire, de l'éducation civique et citoyenne, ainsi que des activités sportives de cohésion. La seconde proposition élargirait la journée citoyenne obligatoire à 5 jours. À cela, vous ajoutez 3 semaines d'engagement qui restent à définir. Enfin, le troisième scénario serait un parcours à réaliser entre l'âge de 16 et 20 ans. Son encadrement serait pris en charge par les armée et l'éducation nationale. Selon les inspections générales, la question de l'hébergement reste très délicate. Les armées ne peuvent pas prendre en charge 600 à 800 000 jeunes chaque année. Et côté éducation nationale et enseignement supérieur, eh bien, l'utilisation des 346 000 places d'établissements et des CROUS ne sera pas possible sans projet de rénovation. Quant à la mise en œuvre de construction de centres, eh bien, cela prendrait des années. Obligatoire ou pas, alors ce SNU, c'est aussi une question que posent les inspections générales et qu'elles demandent d'approfondir. Le 21 février, c'est au tour de l'Assemblée de présenter ses propositions. Mais ce sera le groupe de travail mis en place par l'Élysée qui aura le dernier mot et qui rendra ses conclusions fin avril.
Les jeunes dans le même bain, le temps du service national. Merci Nathalie Hernandez. Mais quelle égalité des chances dans l'accès au stage de 3e? Ils sont nombreux en ce moment à France Inter ou dans la recherche d'un apprentissage. Chercheurs et institutionnels se penchaient sur la question aujourd'hui sur la base d'une étude réalisée dans 25 collèges de la Sarthe et des Yvelines. Étude qui montre clairement, Claire Chaudière, que les inégalités sociales et territoriales sont très fortes dans ce moment crucial de l'orientation scolaire.
Premier contact avec le monde de l'entreprise, premier parcours du combattant pour certains. En moyenne, pour leur stage de 3e, les collégiens des établissements classés éducation prioritaire suivis par cette équipe de chercheurs ont sollicité 2 fois plus d'entreprises que les élèves des autres collèges, mais ils seront au final beaucoup moins nombreux à faire leur stage dans le secteur souhaité. Le réseau relationnel, le capital social des familles explique en partie ces difficultés. Le quartier, avec parfois très peu d'entreprises également. Mais il y a aussi, note l'enquête, les refus explicites de certains employeurs en raison du profil des élèves, et puis des attentes, des ambitions concernant le choix du stage émanant du système éducatif lui-même, parfois différentes selon les établissements. Malika Kassimi a coordonné ses études au sein du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse.
Ce qui est démontré, c'est qu'ils font face parfois à des situations discriminantes qui peuvent avoir des conséquences. Dès ces étapes-là, avant même d'entrer dans la vie professionnelle, il y a déjà des choses qui se jouent pour ces jeunes. Ils peuvent être effectivement découragés. C'est un échec quelque part, il faut absolument remédier à ça.
Et après le stage de 3e, les difficultés reviennent pour les élèves de quartier prioritaire à la recherche d'un maître d'apprentissage, avec cette fois plus d'enjeux car l'entrée dans la formation en dépend, des obstacles parfois intériorisés par les adolescents eux-mêmes, conclut l'enquête, et qui réduisent considérablement le champ des possibles.
Une affaire de pédophilie au sein du diocèse de Nice. Un ancien prêtre du collège-lycée Stanislas fait l'objet d'une enquête depuis plus d'un an. Il faisait le catéchisme, les camps de vacances, et il est passé par 2 autres établissements catholiques de la ville. Il pourrait y avoir plusieurs victimes et les faits à caractère sexuels ne sont pas prescrits. Voici Jean-Michel Prêtre, le procureur de la République de Nice, au micro de Marion Chantreau.
On est devant des faits qui sont décrits de manière très circonstanciée, avec des sources qui sont diverses. Un envoi au parquet, il y a un peu plus d'un an, d'un certain nombre d'indications de la part de personnes se disant avoir été victimes d'actes à caractère sexuel, alors qu'elles étaient scolarisées de la part de leur aumônier. C'est quelqu'un qui était en fonction de cet établissement depuis très très longtemps, donc on est plutôt sur des périodes de 30 ans, hein, grosso modo, donc ça peut concerner un très grand nombre de victimes potentielles.
Une personne se suicide toutes les heures en France, près de 8900 sur un an, selon les derniers chiffres de l'Observatoire du suicide qui porte sur 2014. C'est une baisse de 26% par rapport à l'année précédente, mais notre pays reste l'un des plus touchés en Europe, derrière les pays de l'Est, la Finlande et la Belgique. Le suicide, deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, après les accidents de la route.
Il est 19h15 sur France Inter. Comment ne pas rater le virage du numérique?
On l'a vu la semaine dernière avec Carrefour, les entreprises misent gros sur cette transformation, mais parfois sans rien comprendre ou sans bien comprendre de quoi il s'agit. Un baromètre récent qui a interrogé 175 entreprises montre que les dirigeants sont plus de 9 sur 10 à vouloir plus de concret en la matière, les discours clairs, moins techniques, des cas pratiques et être accompagnés aussi. Parce que même les patrons peuvent être perdus face à ces grands concepts. Hélène Philly s'en est rendu compte chez un groupe immobilier syndic à Lille.
Ça fait déjà plusieurs années que l'entreprise se questionne quels outils numériques développer. S'y retrouver n'est pas évident, confirme le directeur général de Sergic, Étienne de Quiré.
Vous avez une idée ou une nouvelle technologie par jour. Pour un chef d'entreprise, c'est très compliqué d'aller faire le tri dans tout ça. En fait, vous avez des vraies bonnes idées, puis vous avez des vraies mauvaises idées. Mais on vous l'explique pas au début.
L'entreprise a commencé par tester un service de syndic 100% en ligne il y a 4 ans. Elle développe aujourd'hui des applications pour informer les habitants des entreprises qu'elle gère en temps réel. Jérémy Giacomini, directeur marketing et innovation.
Si mon voisin a signalé au syndic que la porte de parking était bloquée, je le sais aussi avant même de descendre dans le garage. Le matin, à mon petit déjeuner, j'ai l'alerte comme quoi quelqu'un a déclaré un sinistre. Et ensuite, l'important, c'est qu'on donne l'ensemble de la traçabilité de l'événement jusqu'à sa résolution et jusqu'à sa facturation en toute transparence.
Cette digitalisation fait aussi évoluer les métiers de l'entreprise.
Alors c'est facile, bien sûr que non. La faisabilité, elle dépend énormément d'accompagner les collaborateurs, de leur expliquer, de leur donner le sens. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que la transformation digitale est essentiellement un sujet RH avant d'être un sujet technique, technologique ou marketing.
Et l'enjeu est de taille. L'entreprise vise une croissance de 15% par an, essentiellement grâce à ces nouveaux outils.
Des blocages aujourd'hui autour de Auch, Montauban et entre Albi et Toulouse. Les agriculteurs protestent toujours contre le projet européen de révision de la carte des zones défavorisées qui pourrait faire baisser leurs revenus. Une nouvelle réunion est prévue mercredi avec le ministre Stéphane Travert.
Le président turc était à Rome aujourd'hui.
Visite au Vatican ce matin, le pape lui a remis un médaillon symbole de paix alors que l'armée turque bombarde les Kurdes en Syrie depuis plus de 2 semaines. Rencontre politique ensuite, notamment Mathilde Inverti pour frapper à la porte de l'Europe. Comme Erdogan l'a fait sans succès à Paris il y a un mois.
Deux rencontres officielles cet après-midi à Rome pour le président turc Erdogan, mais pas un mot accordé à la presse. Selon les informations qui ont filtré auprès de l'agence italienne ANSA, les échanges ont été cordiaux et francs. Face à son homologue turc, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, s'en est tenu à la position de l'Union européenne. Pas d'adhésion de la Turquie pour l'instant. Le président turc lui estime que l'Union doit maintenir les promesses faites à la Turquie. Il rejette la proposition d'un partenariat avec l'UE avancée par le président français Macron. Au Vatican, ce matin, le président Erdogan a semblé vouloir insister sur ce qui le rapproche du chef de l'Église catholique, la question de Jérusalem. Le pape défend le statu quo de la ville sainte. Mais en pleine offensive militaire de la Turquie contre une enclave kurde en Syrie, le pape François a laissé repartir son invité avec un médaillon représentant un ange étranglant le démon de la guerre. Un appel évident à éviter les violences. À deux pas de ce rendez-vous quasiment inédit, la dernière visite d'un président turc au Vatican remonte à 1959. Des Kurdes ont manifesté le long du Tibre au cri de Erdogan assassin. Un sit-in qui a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Bilan, un blessé et 2 arrestations. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Soupçonné mais pas sanctionné, il continue de rouler. Chris Froome commence la saison cycliste dans 10 jours sur la Ruta del Sol. Le Britannique visé par un contrôle antidopage anormal en septembre sur la Vuelta. Des enfants pour accompagner les pilotes sur les Grands Prix de Formule 1. Ils remplaceront les femmes en petite tenue présentes jusqu'ici sur les grilles de départ. Les organisateurs expliquent qu'ils veulent rendre les cérémonies d'avant-course plus pertinentes et intéressantes. Pour les fans, pas sûr. On termine avec la nouvelle sensation rock en provenance de Californie, le groupe Starcrawler, Fabienne. 4 jeunes gens qui ont à peine 20 ans, musique redoutablement efficace et une énergie de dingue qui transforme leur concert en happening, du vécu par Mathieu Culeron devant une chanteuse sidérante.
Euro the Wild a 2 habits de scène. Une blouse d'hôpital pour patients psychiatriques et un qui ressemble à un costume de momie avec des portes-jartelles. Sur scène, la jeune chanteuse de moins de 20 ans multiplie les provocations et enchaîne les morceaux de 2 minutes. Parmi ses références absolues, Ozzy Osbourne et The Runaways, un girls band rock des années 70, mais la musique de Starcrawler semble plus proche de Hall ou de Nirvana avec des attitudes empruntées aux Cramps. Fille d'un batteur de rock et d'une photographe, Aurore rencontre son batteur via Facebook. Mais l'autre personnage charismatique est le guitariste Henry Cash. Il n'a que 18 ans. Il s'habille en cow-boy et cultive sa ressemblance physique avec son idole, Jack White, des White Stripes. La polémique sur la maigreur de la chanteuse ne cesse d'alimenter les réseaux sociaux, accusée de faire l'apologie de l'anorexie, de Wilde dément. Bref, ce premier album est plus que prometteur et sur scène, Starcrawler est automatiquement dans le top 5 des groupes à voir de toute urgence.
Les jeunes Californiens de Starcrawler, l'album STI est sorti ce mois-ci. Et pendant que les jeunes se révèlent sur scène, les anciens la quitte. Après Elton John, Paul Simon annonce une tournée d'adieu. Mais oui, qui commencera en mai au Canada, se terminera en juillet à Londres, peut-être de passage à Paris, on verra cela. En tout cas, Paul Simon, c'est 76 ans aujourd'hui, 50 ans de carrière. On se souvient notamment de ses années avec Art Garfunkel, évidemment, les titres comme The Sound of Silence et Mrs. Robinson, Fabienne.
Voilà, The Sound of Silence, c'est pas tout à fait notre truc, nous, à la radio, parce que si on se tait, on n'entend plus rien. Allez, à demain, Sébastien, à demain. La suite du 18-20, c'est le téléphone sonne, les fonctionnaires, leur statut, le grand chamboulement à venir, le standard est ouvert, vous le savez. Vous êtes déjà nombreux, continuez, 01 45 24 7000, la météo.
La météo avec Région Job. Souriez, des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous sur regionjob.com.
Et Elodie Cala, 40 départements en vigilance orange pour la neige.
Oui, du Massif central jusqu'à la Bourgogne. Et puis la neige remonte vers le nord ce soir. Demain, elle aura gagné le centre, Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, la région parisienne et les Ardennes. On aura 3 à 5 cm jusqu'à 10 même en région parisienne. 20 pour les Pays de la Loire. Sur la Champagne et la Lorraine, attention aux pluies verglaçantes en toute fin de nuit. Il neigera encore jusqu'au Massif central demain. Soyez prudents sur les routes. Quelques averses de neige sur les côtes de la Manche et de l'Aquitaine également. Ce sera de la pluie près de la Méditerranée. On aura des éclaircies de la Provence jusqu'à l'Alsace, mais de la neige pour les Alpes frontalières.
Et quelques températures pour la route.
Des petites gelées presque partout le matin. On pense aux bonnets, aux gants. Et puis l'après-midi, pas plus de 0 degré à Clermont-Ferrand, 2 à Lille, à Nantes, 3 petits degrés à Paris, 5 à Dijon, à Toulouse, 7 à Lyon tout de même et jusqu'à 14 du côté d'Ajaccio.
Merci beaucoup.